Alors, les élections ont lieu dans une quinzaine de jours aux États-Unis. Donc la première question qu'on a envie de te poser, c'est quel est l'enjeu pour les travailleurs dans cette élection ?
Comme en France, il y a une élection présidentielle, mais il y a aussi des élections pour les gouverneurs, pour les parlementaires, des conseillers municipaux. Mais quelque chose d'inhabituel pour nous, on élit aussi les juges locaux, des shérifs, des administrateurs du système scolaire ou universitaire public et un certain nombre d'autres gens. Avec aussi la possibilité de révocation par une élection spéciale en cours de mandat, qui en plus les mandats sont plus courts habituellement qu'en France. Et puis il y a aussi des référendums sur des questions parfois importantes comme le logement en Californie, pour savoir si les municipalités ont le droit ou non d'encadrer les loyers. C'est une question assez importante parce que dans les grandes métropoles comme Los Angeles ou San Francisco ou la Silicon Valley, les prix de l'immobilier sont tels, tirés par la richesse éclatante de la bourgeoisie, que même des gens qui ont un salaire stable et pas négligeable, des pompiers, des infirmières, des enseignants, ne peuvent pas se loger dans les localités où ils travaillent. Et beaucoup de travailleurs sont bien plus pauvres que ces catégories-là. Et puis il y a aussi toute une série de référendums qui ont attrait à droit à l'avortement, puisque la Cour suprême, il y a 2 ans, a renvoyé la question du droit à l'avortement à chaque État. Et donc, dans certains États, bien les élus locaux qui sont anti-avortement, ils en ont profité pour pondre des lois qui interdisent pratiquement l'avortement. Et évidemment, ceux qui défendent le droit à l'avortement, ils profitent des élections pour organiser des référendums qui permettent, s'ils gagnent, d'inscrire dans la Constitution de tel ou tel État le droit à l'avortement, et ce qui rend plus difficile pour les politiciens réactionnaires de le nier. Ainsi, par exemple, il y a 2 ans, dans l'Ohio, qui a un gouverneur républicain et dont un des sénateurs est J.D. Vance, le colistier assez réactionnaire de Trump. Voilà, il y a eu un référendum sur l'avortement et le gouverneur a été désavoué et la majorité des électeurs lui a dénié le droit de légiférer contre les femmes dans cet État. Alors, par certains aspects, ce système électoral, il semble plus démocratique qu'en France, en tout cas plus proche des électeurs. Mais ça, c'est sans compter sur la mainmise totale de 2 partis bourgeois, le Parti démocrate et le Parti républicain, qui sont complètement institutionnalisés et complètement fusionnels avec l'État américain depuis 1 siècle et demi. Alors ainsi, il y a à peu près 30 000 élections différentes qui vont se tenir aux États-Unis le 5 novembre, dont certaines, en fait, sont déjà en train de se tenir parce que les gens votent par correspondance en avance, une partie en tout cas des électeurs. Mais dans la moitié de ces 30 000 élections, il n'y aura qu'un seul candidat.
Étonnant.
Soit un républicain, soit un démocrate, parce que l'issue du vote, dans certaines localités, c'est tellement évident que c'est un républicain qui va l'emporter ou que c'est un démocrate qui va l'emporter, que l'autre parti ne fait même pas l'effort de présenter un candidat. Et du coup, bah, les électeurs qui ne sont pas d'accord avec la majorité dans leur comté ou dans leur ville, etc., bah, ils ne vont même pas se déplacer parce qu'ils n'ont pas de candidat même pour exprimer leur rejet, etc. Donc ça participe aussi au fait que pas mal d'électeurs ne votent pas. Alors, bien sûr, l'élection présidentielle, bah, c'est l'élection phare, qui oppose, bon, bah, on le sait, le républicain Donald Trump à la démocrate Kamala Harris. Mais là aussi, comme l'élection n'est pas nationale, mais par État, beaucoup ne voient pas l'intérêt d'aller voter dans un État où c'est à peu près sûr que la majorité va être soit démocrate, soit républicaine. Il n'y a pas tellement d'enjeu pour savoir qui va gagner. Parce que dans la plupart des États, le parti qui gagne l'élection dans un État remporte tous les grands électeurs qui sont attribués à cet État. Et donc, quelqu'un qui est dans la minorité d'un État, ben, sa voix ne compte absolument pas pour, au bout du compte, désigner celui qui va aller être le locataire de la Maison-Blanche. Donc là aussi, ça fait que les électeurs minoritaires ne voient pas trop l'intérêt d'aller voter. Mais ce qui est commun avec la France et avec toutes les démocraties bourgeoises, bien, c'est que ces élections, les élections ne peuvent pas remettre en cause la dictature de la bourgeoisie sur l'État, sur l'économie, sur la société. Et aux États-Unis, ce poids de la bourgeoisie se manifeste dès la campagne électorale, au cours de laquelle les dollars, ils affluent par centaines de millions vers la campagne de Trump et de Harris. Peut-être cette année, plus $1 milliard vont être dépensés dans les financements électoraux. Alors évidemment, il y a des milliardaires. Elon Musk, par exemple, il a dépensé déjà $75 millions pour tenter de faire élire Trump. D'un autre côté, Harris, elle a la firme Bloomberg, qui est une firme financière qui a donné $20 millions pour elle. Puis il y en a plein d'autres, évidemment. Et ces gens-là, évidemment, quand ils financent un candidat, ben, ils veulent un retour sur investissement et ils veulent que la politique qui soit menée soit conforme à leurs intérêts. Alors évidemment, un travailleur qui n'a, lui, que sa voix à donner le jour de l'élection, ben, il compte pour bien peu face à ça. Et en retour, ben, l'élection présidentielle, elle n'a qu'un enjeu limité pour les travailleurs.
Ben justement, tu dirais que c'est quoi les préoccupations principales des travailleurs américains en ce moment ?
Alors, aux USA, d'abord, il n'y a pas que des Américains. Il y a aussi beaucoup de travailleurs qui n'ont pas la nationalité américaine. Dans la seule agglomération de Los Angeles, il y a autour de 4 millions de personnes, qui sont essentiellement des travailleurs, qui n'ont pas la nationalité américaine, qui n'ont pas la nationalité, et donc qui n'ont pas le droit de vote. Dont 1 million sont sans aucun droit, car ils sont sans papier. Mais de toute façon, pour tous les travailleurs, quel que soit leur statut, l'inflation, et donc les salaires, c'est un problème majeur. Même si la hausse des prix a ralenti récemment, elle a été plus forte qu'en France. L'alimentation a ainsi augmenté, selon les chiffres officiels, de 30% ces 4 dernières années. Mais pas du tout les salaires. Alors avoir un deuxième boulot, c'est une nécessité courante pour ceux qui ramènent les payes à la maison. Alors, beaucoup de travailleurs, ils vont là le matin pour bosser, ailleurs l'après-midi pour ramener un autre salaire, et certains soient même obligés de prendre un troisième travail le week-end. Alors évidemment, les patrons, ils en profitent un maximum. Ils écrasent ces travailleurs avec une exploitation accrue. Plus les salaires horaires sont bas, plus les travailleurs ont besoin d'effectuer des heures pour faire vivre leur famille. Et on aboutit à une véritable aberration sociale. Sur le papier, le taux de chômage est bas, si on compare à la France, autour de 4%. Mais la proportion d'adultes qui participent au marché du travail, elle est faible et elle est en régression. Beaucoup ont renoncé à travailler pour des salaires aussi faibles. Vivent en marge de la société, certains sombrent dans la drogue, et il y a tous ces problèmes qui tournent autour de ça. Et ça, pendant que d'autres travailleurs, ils sont exploités 70 heures par semaine. Et l'espérance de vie, bah, elle diminue depuis plusieurs années dans ce pays qui est pourtant le plus puissant du monde.
Et le plus riche.
Et le plus riche.
Alors, quand on pense aux États-Unis, d'ici, on nous parle souvent qu'il y a une communauté afro-américaine, une communauté latino. Dans quelle mesure tu dirais que ça compte aux États-Unis ?
Alors malheureusement, ça compte encore pas mal. L'histoire, le passé esclavagiste, le passé ségrégationniste, il pèse encore beaucoup sur la société américaine d'aujourd'hui. Trump, il n'hésite pas à se servir du racisme anti-noir pour attirer les voix de certaines catégories de blancs pauvres. Et puis il utilise aussi les préjugés anti-migrants, faisant croire que la déportation de millions de latinos va donner du travail bien payé, des emplois bien payés aux travailleurs américains. Alors d'ailleurs, Kamala Harris, elle tient à ne pas le laisser seule sur ce créneau xénophobe. Elle aussi, elle s'est récemment rendue à la frontière mexicaine pour dire qu'elle allait continuer à construire le mur que Trump avait
promis
de... Il avait démarré bien avant.
D'accord.
Il en existe des bouts depuis des dizaines d'années.
D'accord.
Mais lui, il avait fait toute une propagande quand il était président pour l'étendre, pour etc. etc. Ben, Kamala Harris, elle se met dans cette roue-là en ce moment. Mais ceci dit, pas plus qu'ici... les préjugés qui malheureusement traversent une partie de la classe ouvrière ne l'empêchent de défendre ses intérêts dans certaines occasions.
Et là, tu penses aux grèves récentes qui ont eu lieu aux États-Unis ou
oui,
je crois même peut-être qu'il y en a en ce moment.
Tout à fait, tout à fait. Il y a des grèves qui sont en cours aux États-Unis, chez Boeing depuis plus d'un mois. L'an dernier, à peu près à la même époque, c'était les travailleurs de l'automobile qui avaient fait grève un mois et demi. Récemment, il y a eu aussi 3 jours de grève chez les dockers. 45 000 dockers sur la côte est et la côte du golfe du Mexique. Et il y a aussi une grève en cours dans des grandes chaînes hôtelières, mais qui se chiffrent en milliers de travailleurs en grève. Et il y a d'autres grèves de moindre ampleur. Alors, les revendications principales, c'est des augmentations de salaire, ce qui pourrait permettre éventuellement d'unifier ces grèves ou de les étendre, vu le retard considérable qu'ont absolument tous les salaires sur les prix. Mais surtout, ce que je trouve remarquable, vu de France, c'est que le nombre de grévistes, il se compte par dizaines de milliers dans chacune de ces grèves, et ce qui donne une idée de la puissance potentielle du prolétariat dans un grand pays industriel comme les États-Unis. Ceci dit, ça ne doit pas cacher que ces grèves, jusqu'à présent, elles sont totalement encadrées par les appareils syndicaux, qui décident quand les travailleurs doivent faire grève, sur quelles revendications, qui parmi les travailleurs va faire grève, car toutes les usines d'un même groupe capitaliste ne sont pas appelées à la grève en même temps. Et ces appareils syndicaux, ils mènent les négociations avec le patronat en dehors de tout contrôle des grévistes. Alors effectivement, Il y a une grève en cours de 33 000 travailleurs de deux usines Boeing. Elle est assez instructive. Alors que leurs dirigeants syndicaux y négociaient depuis des mois avec la direction de Boeing pour obtenir 40% d'augmentation de salaire sur un contrat de travail qui couvre les 4 prochaines années, et on ne sait pas trop ce que l'inflation sera les 4 prochaines années, et puis il y avait déjà beaucoup de retard sur l'inflation avant. Donc 40%, ce n'est pas du tout délirant. Donc il y avait ces négociations-là, mais ceci dit, les syndicalistes, ils ont fait voter les travailleurs sur 25% d'augmentation en expliquant qu'il n'était pas possible d'obtenir plus, même si on faisait grève. Alors heureusement, en septembre, les travailleurs ont majoritairement rejeté cet accord qui avait été préconclu d'une certaine façon entre les dirigeants syndicaux et les dirigeants de Boeing. Et la grève a été déclenchée. Alors au bout de 15 jours, la direction, elle est passée de 25% à 30% d'augmentation de salaire. Elle a proposé ça. Mais là, les syndicalistes qui auparavant avaient été désavoués par leur base, ils n'ont même pas voulu soumettre ça au vote des grévistes.
Parce qu'ils savaient que ça ne passerait pas.
Ils savaient que ça ne passerait pas. Mmh. Et donc la grève a continué. Et un mois plus tard, ces jours-ci, la direction qui avait pourtant prétendu que les 30% étaient à prendre ou à laisser dans le sens où s'ils ne les prenaient pas les syndicats, ils revenaient aux 25% du début, eh bien là maintenant, elle propose 35%. Alors le syndicat, il va soumettre dans les jours prochains cet accord au vote des grévistes. Comment vont voter les grévistes? Ça, c'est encore une question à voir. Et ils sont soumis à une certaine pression parce que Boeing a des difficultés financières et évidemment, on leur fait le chantage que l'entreprise va mal et qu'il ne faut pas qu'ils soient trop gourmands. Mais en tout cas, ce qu'ils arracheront, ils le devront à leur propre lutte. Ça, c'est sûr et certain.
Et est-ce que tu peux expliquer pourquoi 40%, finalement, ce n'est pas si énorme que ça, au sens où nous, ce n'est pas du tout des chiffres qu'on entend ici. Voilà, quand
bien sûr.
Souvent, quand on parle de qu'il faudrait des augmentations de salaire ou même qu'il faudrait se bagarrer pour des augmentations de salaire.
Dans beaucoup d'entreprises, et c'est le cas chez Boeing, les travailleurs ont dû faire des sacrifices dans les années précédentes.
Sur leur salaire.
Sur leur salaire. Des nouveaux contrats de travail étaient signés entre les syndicats et la direction, sans même qu'on appelle les travailleurs à faire grève. Et dans lequel, en fait, on leur demandait de s'asseoir sur des augmentations de salaire alors que les prix augmentaient. Et puis les prix ont beaucoup accéléré en 2020. Et en plus, chez Boeing, la crise de 2020, la crise de la pandémie, a été aussi une crise du transport aérien, évidemment. Et à ce moment-là, Boeing a licencié massivement des dizaines de milliers de gens, qu'il a réembauché quelques temps après, une partie, quand la production a démarré, mais à des échelles de salaire inférieures. Donc vraiment, les 40%, on comprend vraiment pourquoi ils les veulent. Alors, ce que je veux juste rajouter, c'est que les appareils syndicaux y raisonnent en fonction de ce que les patrons sont prêts à accepter, pas ce dont les travailleurs ont besoin. Or, les besoins des travailleurs, ils sont grands, on vient d'en parler, et les bénéfices des grosses entreprises et des milliardaires, ils sont immenses. L'indice boursier Dow Jones, il a augmenté de 15% depuis le début de l'année. Il n'y a donc aucune raison pour que les travailleurs limitent leurs revendications.
Et du coup, tu dirais que c'est quoi le rôle que jouent les syndicats dans ces grèves? Et puis aussi, moi, je me demandais, c'est quoi leur positionnement par rapport à l'élection présidentielle qui arrive?
Les dirigeants syndicaux, même ceux qui adoptent un langage radical et qui ont mené des grèves, comme Sean Fain, le président du syndicat de l'automobile UAW, ils ne contestent pas le système capitaliste ni le pouvoir de la bourgeoisie sur l'économie. Et d'autre part, la plupart, ils financent les campagnes électorales du Parti démocrate. Et ils soutiennent Kamala Harris, que par exemple Sean Fain a qualifié de combattante de la classe ouvrière. Bon, ça peut faire sourire, elle est vice-présidente depuis 4 ans, c'est une élue démocrate depuis toujours, elle a été procureure de l'État de Californie, c'est-à-dire chef de la justice et de la police, donc comme combattante de la classe ouvrière, ça interroge. Et elle-même d'ailleurs, Kamala Harris, pour être certaine du soutien des grandes fortunes de Wall Street, elle s'est récemment déclarée à la télé capitaliste, pour ne laisser aucune illusion sur ses idées. Alors ces dirigeants syndicaux, ils sont liés à la gauche du Parti démocrate, les Bernie Sanders, les Alexandra Ocasio-Cortez. Ensemble, ils jouent le rôle de rabatteurs des voix ouvrières vers Harris et ils font partie du piège qui est tendu aux travailleurs. Voter pour Harris par crainte de Trump, de son racisme et de l'extrême droite violente qui traîne derrière lui, ou bien voter pour Trump si vous êtes déçu de Harris, Parce que, évidemment, les démocrates, c'est une politique qui permet aux milliardaires de s'enrichir. Ils financent des guerres impérialistes pendant que les services publics se délabrent, les écoles se délabrent, les ponts s'effondrent, etc. Et la vie des travailleurs est toujours plus dure.
Alors, la question qu'on se pose, c'est du coup, pour les travailleurs américains, à quoi elle peut servir cette élection à venir?
Les élections, elles ne décident de rien qui soit fondamental. Mais elles peuvent être un premier pas pour que les travailleurs s'extraient de ce piège et considèrent avant tout leur propre intérêt de classe. Dans au moins trois États, des militants ont réussi à surmonter les obstacles légaux pour se présenter au suffrage sous l'étiquette du Working Class Party, le Parti des travailleurs. Alors bien entendu, se présenter même à l'échelle de l'État du Michigan, mais dans une seule circonscription Californie et dans une seule de l'Illinois, ça ne fait pas un parti. Mais c'est un appel à construire le parti qui manque aux travailleurs des États-Unis pour organiser le combat nécessaire pour arracher le pouvoir à la bourgeoisie. La bourgeoisie américaine, elle est certes riche, elle est puissante, son État, il est armé, font ses intérêts partout dans le monde. Mais le prolétariat des États-Unis, s'il en possède la conscience, il sera plus puissant encore. Alors, si les élections du 5 novembre, elles peuvent servir à quelque chose, c'est à faire un pas dans cette direction.
Espérons-le. Merci beaucoup pour tous ces éclairages, ces explications que tu nous as apportées. Et puis on se donne rendez-vous au lendemain des élections, le 6 novembre, pour une nouvelle vidéo pour commenter et tirer des leçons à partir des résultats.